membre de la rédaction sur la situation des événements en cours. Il est 7h31, l'invité de première édition. Bonjour Mohamed Harkoun.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Dites, depuis tant d'années que vous vous consacrez à l'islam, et un islam qui n'est pas nécessairement celui dont on parle depuis un mois, je suppose que depuis 4 semaines, vous devez assez souffrir, non ?
Beaucoup. Beaucoup. Et triste.
Mais vous le reconnaissez, quelque part, l'islam que vous avez connu et que vous pratiquez et que vous côtoyez ?
Pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que j'ai développé une vision que j'ai essayé de faire passer, sans y réussir vraiment, à savoir que depuis 1945, il n'y a pas seulement un bouleversement dans les sociétés, dans leur vie matérielle, dans leur vie politique. Il y a un déchirement, une désintégration des âmes collectives. Voilà, j'emploie un mot qui n'est pas courant dans notre vocabulaire. Et ça veut dire beaucoup de choses, que nous ne parlions plus d'âme. Âme personnelle, âme collective. Mémoire personnelle, mémoire collective. C'est vivant. C'est vivant, ça souffre. Et ça désespère. C'est le cas de le dire. Car pour quelqu'un comme moi qui était étudiant ici à Paris pendant la guerre d'Algérie, j'ai des souvenirs trop vifs et trop douloureux déjà en tant qu'étudiant de tout ce qui s'est passé dans ce pays, en France, notre pays, et du langage des Français au sujet de ce que déjà on appelait l'islam et les Arabes, en gros.
Parce que...
Après 130 ans de présence de la souveraineté politique française, en particulier dans ce pays martyr, l'Algérie. Et puis il y a eu d'autres événements qui ont suivi. Nous nous rappelons la guerre de 56. Les alliés contre Nasser en ce temps-là, dans le cadre bien sûr du problème israélo-arabe. Puis 1967, où de Gaulle au moins avait une réaction dont les Arabes se souviennent, et les musulmans aussi. Puis nous avons eu la guerre du Golfe, concomitante presque de l'affaire Rushdie, qui a remué aussi les esprits, où il y a eu aussi un déferlement de passion, un déferlement de jugement à l'emporte-pièce, aussi bien de la part des politiques, dont on peut comprendre qu'ils n'ont pas le temps de lire pour s'exprimer sur des problèmes de civilisation et de culture, et qu'ils se laissent aller à des jugements comme ceux que nous venons d'entendre de Berlusconi, mais aussi de M. Bolkestein, qui est un ami personnel. Nous avons fait un livre ensemble, que nous avons publié ensemble au Hollande. L'islam est perçu comme un produit barbare.
Et il y a maintenant un mois, quand les deux tours de New York ont été attaquées par des terroristes et qu'immédiatement on a parlé des réseaux Ben Laden, est-ce que dans l'instant, Mohamed Harkoun, vous vous êtes dit savoir partir ?
Oui, savoir commencer. Absolument. D'abord, ma première réaction, c'est de douleur, parce que je travaille beaucoup aux États-Unis.
Vous êtes professeur à Princeton ?
Je dois dire que les États-Unis donnent plus de considération à ce que je fais que la France.
L'islamologie appliquée ?
Oui, beaucoup plus. Je suis conseiller scientifique à la librairie du Congrès, et j'y vais demain, à leur demande, parce qu'ils veulent m'écouter. En France, malheureusement, je le dis avec beaucoup de tristesse, les dirigeants français n'écoutent pas, et je m'excuse de devoir citer le nom du Premier ministre actuel.
Pourquoi ?
Parce qu'il a eu une responsabilité directe dans la lutte contre la guerre que nous vivons et la lutte par la culture que je lui ai proposé, pas à lui, c'était pendant l'affaire Rushdie. J'ai écrit au président Mitterrand pour lui dire les choses que je suis en train de vous dire. Ne laissons pas les musulmans en France s'exprimer dans la rue de manière violente et ne leur donnons pas seulement la liberté de faire leur culte dans les mosquées. Cette population désormais française est importante, a besoin, voilà la formule que j'ai publiée dans Le Monde, a besoin d'espace, d'expression intellectuelle et scientifique de l'islam.
Mais jusqu'à présent, comme vous le savez, les différents ministères qui se sont succédés, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les cultes, ont échoué finalement, qu'il s'agisse de Jean-Pierre Chevènement
ou de Pierre Joxe. Je connais toute
l'histoire. Alors pourquoi ont-ils échoué à former ce qu'on pourrait appeler, dans le meilleur sens du terme, un lobby musulman ?
Mitterrand a donné des instructions, et Jean-Louis Bianco est là pour en témoigner, pour que soit étudié le projet d'une création d'un institut national d'études islamiques
qui n'existe pas.
J'étais à ce moment-là directeur de l'institut d'études islamiques, il porte le même nom, à la Sorbonne, et je voulais expliquer à monsieur Jospin qui était ministre de l'éducation nationale la différence de portée que Mitterrand a immédiatement comprise lorsque je lui ai expliqué ça.
Et qu'est-ce qu'il y a
la différence entre ce que nous faisons à la Sorbonne pour former des étudiants, et en particulier des enseignants d'arabe dans les lycées et collèges, comme des enseignants d'anglais, etc. Et cet espace que je voulais créer, et qui aurait une visibilité telle que tout le Maghreb regarderait
vers... Et pourquoi ça n'a jamais abouti ?
Monsieur Jospin a refusé de me recevoir.
Mais c'est de l'indifférence.
Malgré l'intervention auprès de lui de personnalités socialistes.
Est-ce que c'est l'hostilité ?
Lui et M. Allègre. Et lorsque M. Chevènement a repris le projet pendant que son ministère, il a réussi à porter le projet devant le gouvernement et nous l'avions préparé ensemble. Allègre avait nommé une commission pour étudier le projet. Le rapport de la commission est au ministère, c'est un document officiel. Ce document a été jeté par mon collègue Allègre à la poubelle, et il a créé quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous voulions créer pour gérer des problèmes de société, mais des problèmes de société vus par la culture et par la démystification de la religion et des religions en général, parce qu'il n'y a pas que l'islam, et pour gérer le religieux pour la première fois en France avec une laïcité dynamique et ouverte, pas du tout avec des théologies comme des collègues l'ont écrit dans le journal pour discréditer à l'avance mon projet. Vous voyez comment ça fonctionne. Il n'y a pas que le politique. Il y a aussi mes collègues. Je le dis avec force et je peux les nommer s'il est nécessaire.
Mohamed Harkoun, ce que vous dénoncez là chez certains hommes politiques français, vous avez cité Claude Allègre et Lionel Jospin et d'autres, est-ce que c'est de l'hostilité à un projet ou est-ce que c'est de l'indifférence ou de l'incompétence ?
Je pense que c'est une sorte de peur de l'islam tel qu'il a été perçu et qui d'ailleurs se montre au grand jour dans des coups durs comme celui que nous vivons, la peur d'une dérive vers... les monstruosités.
Parce que d'ailleurs cette peur que vous pointez, tout de même se profile quelque chose qui est très profond en France, depuis le temps qu'il y a à la fois des relations et un contentieux entre la France et le monde arabo-islamique, il s'agit quand même d'une vision très fantasmée de l'islam.
Oui, lorsque ce projet d'ailleurs avait été lancé par mon collègue et ami Trocmé, Étienne Trocmé, à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, il y a les trois facultés de théologie qui sont officielles et payées par l'État en vertu du concordat. Et M. Trocmé nous en avions parlé, a eu l'idée de créer une faculté de théologie à Strasbourg, avec celle de théologie catholique et protestante qui existe à Strasbourg, sous l'égide, bien sûr, de l'éducation nationale, pour garantir, évidemment, et c'est tout, ça a été toujours ma lutte, car je lutte pour une laïcité à l'intérieur de la pensée islamique elle-même. Immédiatement, la réaction, c'était « Oh non, pas de faculté de théologie islamique. »
C'est d'autant plus regrettable.
On va voir défiler tous les islamistes à Strasbourg et en France.
Mais c'est d'autant plus regrettable que l'instauration d'une telle faculté permettrait justement de ravir le contrôle des études islamiques.
Merci de le dire vous-même. Mais c'est bien ça, l'esprit. Et personne ne peut me soupçonner. Moi, j'écris depuis les années 60, tout de même, au sujet, et j'enseigne à la Sorbonne depuis 62. Et tout le monde connaît dans le monde entier. Mes livres sont traduits dans plusieurs langues islamiques.
Alors, Mohamed Harkoun,
vous dire que la pensée que je représente n'est pas quelque chose d'éthéré ou quelque chose d'anti-scientifique ou quelque chose qui aurait quoi que ce soit à voir avec la moindre interprétation théologique retardataire.
Alors, le résultat, c'est que depuis un mois, avec ce qui se passe aux États-Unis et en Afghanistan, il y a un très fort intérêt du public pour tout ce qui est qui relève entre guillemets de l'islam, même si c'est une sorte de nébuleuse dont ils ne savent pas trop si elle est politique, etc. La première chose, vous n'êtes pas frappé par le fait que aujourd'hui de plus en plus de gens se mettent à acheter et à lire le Coran? Est-ce que ce n'est pas le pire moment pour lire le Coran quand on ne le connaît pas?
Absolument, c'est le pire moment, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber sur la fameuse sourate 9, qui est la sourate lue, d'après le document que nous avons tous lu dans le monde, par ceux qui ont fait l'attentat. Qui a été cité par ceux qui, en Algérie, avaient assassiné les trappistes de Tifhirine. Donc, ce texte est fondamental, effectivement. Voilà pourquoi j'ai porté mon attention précisément sur ce texte, pour montrer comment il faut le lire d'une façon moderne et déminer la portée effectivement dangereuse de ce texte mis dans les mains d'une exégèse que j'appelle sauvage.
Celle que tout le monde peut faire.
Celle que tout le monde peut faire, et une exégèse sauvage, c'est une exégèse qui fait un coup de force sur le texte.
Mais cette exégèse sauvage, tout le monde peut la faire sur le Coran en général, on ne s'en prive pas. C'est pour ça que c'est le pire moment pour lire le Coran, même si ça correspond à une vraie curiosité. Mais vous êtes là justement comme une sorte de garde-fou par rapport à ce genre de dérive.
Ben oui, mais c'est un garde-fou malheureusement qui est en quelque sorte censuré.
Mais quand les gens vous demandent, à vous Mohamed Harkoun, est-ce que la violence est consubstantielle à l'islam?
Je dis que c'est scandaleux de s'exprimer ainsi.
Le fait simplement de poser la question.
Parce que cette question telle qu'elle est posée, j'ai été content que Henri Tinck me l'ait posée pour Le Monde. Évidemment, il l'a fait non pas parce qu'il le pense lui-même, mais pour exprimer ce que les gens pensent. Parce qu'à force de le répéter, effectivement, tout le monde est persuadé que la violence telle qu'elle s'exprime, là, terroriste en particulier, est consubstantielle à l'islam. C'est un aveu d'inculture totale. Et là, bon, nous sommes en train de faire la guerre, mais quand donc la pensée européenne qui a donné tant de richesses au monde, ça aussi je le crois et je le dis, la raison des Lumières qui a fait tant d'acquis essentiels pour permettre à l'homme de se prémunir contre les illusions, les grandes et les petites illusions, en particulier charriées par des traditions dites religieuses, eh bien, cette richesse intellectuelle, ces ressources scientifiques qui existent et que je voulais mettre justement au service de l'islam en France et donc en Europe, reste absolument inactive dès qu'il s'agit de l'islam. Et j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai écrit beaucoup de choses. Si j'ai défendu la notion, le concept et la pratique d'islamologie appliquée, c'est pour dénoncer deux choses. Et là, nous sommes dans le cadre de l'université et de la recherche scientifique. Ce n'est pas du tout un cadre politique. Regardez qui prend la parole au sujet de l'islam. Où sont les chercheurs dits islamologues en France et ailleurs?
Il y en a.
Il y en a, mais leur manière de présenter l'islam est fixiste et substantialiste, justement.
Vous pensez à la fois à Olivier Roy, à Gilles Kepel, à Bruno
Mais tout
Etienne,
le monde.
À tout le monde.
Oui, tout le monde. Je ne connais pas d'exception. Car si j'en connaissais, je vous assure que je les citerais.
Y compris des musulmans.
Mais les musulmans, c'est pire. Attention, ce que je dis là, ce n'est pas du tout l'ancienne querelle orientaliste. Je ne l'ai jamais épousée. Et mes écrits en témoignent. Je n'ai jamais épousé la querelle orientaliste. Parce qu'elle est fausse, elle est intellectuellement fausse. À mes yeux, ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les musulmans ou les non-musulmans. Pas du tout, jamais.
Mais en quoi les islamoques français sont-ils fixistes, selon vous ?
Mais parce que, d'abord, ils ne sont pas partis à toute l'histoire que vivent les sociétés musulmanes. Ils la regardent en observateur. Et ils la regardent à partir des schèmes culturels et des schèmes intellectuels qui fonctionnent dans la pensée française en général vis-à-vis du religieux. Parce que même vis-à-vis du christianisme, nous savons que le christianisme en a pris un coup. Bon, il y a encore des chrétiens qui croient, mais quand même. Alors là, c'est tout le débat sur le fonctionnement de la pensée laïque en tant que pensée et en tant que cadre intellectuel et philosophique d'interprétation, en particulier du phénomène religieux.
Mohamed Harkoun,
il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, on va y revenir, mais j'aimerais prendre un ou deux exemples pour montrer ce que peut être l'islamologie appliquée, et surtout pour montrer comment vous invitez à déconstruire les mythes.
Oui, exactement.
Deux exemples, parce que ce sont des exemples qui teintent dans les oreilles et des auditeurs qui s'intéressent beaucoup, non seulement à l'islam, au Coran, mais au monde arabe. La notion de martyr, le shahid, dans le Coran, telle qu'elle est instrumentalisée par les réseaux Ben Laden, n'a rien à voir avec le contenu du Coran.
Absolument pas.
Alors, quelle est-elle, selon vous ?
Elle est complètement décontextualisée. Quand on lit de près cette fameuse sourate 9, cette sourate pose pour la première fois la question du jihad, c'est-à-dire d'un combat, cette fois physique et militaire, mais en définissant en même temps et dans la même foulée ce que j'appellerais une expérience du divin. Et une expérience du divin faite dans la tradition monothéiste déjà existante, puisque toute la charge prophétique du discours biblique, toute la charge prophétique du discours évangélique se trouve reprise dans le discours coranique. Et là, par conséquent, il y a une chose qui émerge pour la première fois dans l'histoire en langue arabe, après avoir émergé en langue hébraïque et en langue araméenne, toutes trois langues sémitiques, je le rappelle, parce que c'est très important, parce que pour les évangiles, on va tout de suite passer au grec, c'est-à-dire à un autre univers de pensée. Et c'est le premier enracinement ou déracinement et réenracinement, justement, de l'enseignement monothéiste de son cadre culturel sémitique dans un cadre grec. Et c'est sont les fondations, si vous voulez, de la séparation que nous vivons.
Je note que vous avez évoqué la djihad, mais vous ne l'avez pas traduit par guerre sainte.
Alors, je ne l'ai pas du tout traduit par guerre sainte. On peut dire, comme saint Augustin l'a fait, et comme les théologiens musulmans le font, la guerre juste. La guerre qui est fondée justement sur, je dirais moi, analyste, une représentation de la vérité religieuse, une représentation de Dieu, une représentation de la fonction prophétique. Je les appelle des représentations. Pour ne pas justement substantialiser la notion de croyance comme toutes les théologies l'ont fait. Ça n'est pas seulement la théologie musulmane. Théologie musulmane s'est définie dans le cadre d'une pensée aristotélicienne, exactement comme la théologie chrétienne et la théologie juive. Et il faut voir ces trois théologies développées dans le même terreau, à la fois culturel, sémitique et philosophico-scientifique grec, au lieu de les séparer comme nous le faisons. Ça, c'est de l'histoire. C'est un minimum d'histoire. Que les choses aient totalement dérivées intellectuellement et par conséquent spirituellement, car il n'y a pas de spiritualité valable qui ne repose sur une lucidité intellectuelle et une critique intellectuelle. Fides quaeras intellectum, ne cessent de répéter les théologiens chrétiens et aussi les musulmans, au temps où les musulmans pouvaient réfléchir et apporter justement un contrôle intellectuel, et un contrôle intellectuel pluriel à cette vérité religieuse. Donc, quand je dis représentation de la vérité, c'est pas seulement parce que je suis moderne et que je fais des analyses, c'est parce que cette approche pluraliste existait déjà en plein Moyen-Âge, et aujourd'hui nous en sommes incapables.
Mohamed Harkoun, quand vous lisez, comme ce matin dans Le Figaro, le communiqué de Ben Laden, revendiquant en quelque sorte les attentats et promettant de mettre l'Amérique à feu et à sang, lançant une croisade une action contre les chrétiens et les juifs, etc. Est-ce que vous vous dites, c'est un musulman fanatique, c'est un musulman dévoyé, ou bien est-ce que vous vous dites, c'est plus un musulman? Parce qu'il agit au nom de l'islam.
Alors, je me garderai bien de porter de tels jugements. Parce que je suis, et je reste dans l'analyse. Nous avons besoin de lucidité. Ben Laden s'inscrit dans une lignée ancienne.
Le wahhabisme?
Au-delà du wahhabisme. Car un enjeu formidable a eu lieu déjà. Une bataille, je veux dire. Qui est une bataille intellectuelle. Intellectuel, qui a engendré des batailles physiques et des guerres à l'intérieur même de l'islam. Elle a eu lieu au 8e et 9e siècle entre l'école dite Mu'tazilite. Les Mu'tazilites, c'est une école de théologiens, mais de théologiens déjà convertis à des catégories de pensée qui venaient de la philosophie grecque, de l'aristotélisme. Et ces penseurs, car c'était des penseurs, qui accordait de l'importance à une approche intellectuelle du religieux, du phénomène religieux, ont lancé une théorie qui, si elle avait pu se poursuivre jusqu'à nos jours, nous n'aurions jamais eu ce dont nous souffrons aujourd'hui. Pourquoi ? Ils ont lancé la théorie de ce qu'ils appelaient le Coran créé, c'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu, qui est manifesté à travers les prophètes dans une longue tradition, comme je l'ai dit. Cette parole de Dieu est un des attributs de Dieu, attaché à Dieu, mais elle a eu des manifestations dans l'histoire et des manifestations dans les langues humaines. Et ces manifestations dans des langues humaines et dans l'histoire des hommes, c'est la partie créée, qui donc fait partie, dans notre langage moderne, de l'historicité. Elle est dans l'histoire. Mais c'est formidable, cette pensée-là. Les modernes ne disent pas plus. La raison des Lumières, avec tous ses attirails, ne dit pas mieux. C'est au 9e et 10e siècle. Il y a eu, je vous l'ai dit, une bataille intellectuelle et une bataille politique, car le grand calife Al-Ma'moun, qui était un grand intellectuel, un grand humaniste, humaniste au sens du 16e siècle, c'est lui qui a lancé le courant philosophique.
Mais cette pensée-là, est-ce qu'elle s'est incarnée par la suite sur le plan politique?
Je vais vous le dire justement, si vous le permettez. Ça, voilà des choses que les musulmans eux-mêmes ignorent. Non seulement ils les ignorent, mais l'islam d'après 45, je dis après 45, il faut que les auditeurs sachent pourquoi. Après 45, le 8 mai 1945, les Français le savent et les Algériens le savent. Après la deuxième guerre où des Algériens avaient participé, voilà que le duc Étrouin de Bougie bombarde des Algériens à Sétif.
C'est le vrai début de la guerre d'Algérie?
Mais bien sûr. Et c'est là que la subversion des têtes et des âmes par le politique, un politique, c'est le politique qui est dévoyé. Surtout ici, nous pouvons parler en France du politique, qui est censé être enraciné dans la République et la raison des Lumières, bon Dieu. Ça s'est fait ici, en grande partie. En Angleterre aussi, en Allemagne aussi, en Hollande aussi, mais ici tout particulièrement. Et les Algériens qui ont bien étudié l'histoire de France et la connaissent parfois mieux que des Français, ne peuvent pas ne pas vivre cette contradiction. Donc, quand je dis après 45, ça veut dire qu'il y a les effondrements qui commencent et l'accumulation d'expériences amères, désastreuses, comme celles que nous sommes en train de revivre. Si vous permettez que je finisse avec les Mu'tazilites, pour vous dire que Al-Ma'mouna a essayé de soutenir ce courant, et 3 siècles après, un autre calife, Al-Qadir, en 1027, a fait un édit qui condamne cette théorie du Coran créé et qui dit que quiconque parmi les musulmans soutient cette théorie-là, eh bien, son sang est licite.
On va reparler avec vous de l'islam, Mohamed Erkoun, dans la deuxième partie de première édition, mais tout de suite, il est 8h moins 3, on retrouve Dominique Schnapper pour son billet. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour Pierre. Mohamed Erkoun, c'est la sympathie que j'ai pour son combat à long terme. Mais aujourd'hui, les événements du monde ne se laissent pas oublier. La société moderne se trouve face au problème éternel de la paix et de la guerre. Dans la guerre, les démocrates ont besoin d'être convaincus que leur cause est juste. C'est le cas, semble-t-il, de la grande majorité du peuple américain. Les Français, comme du temps de la guerre du Golfe, sont plus ambigus. Beaucoup d'entre eux se sont émus, par exemple, qu'on ait consacré 3 minutes de silence à la mémoire des victimes des tours jumelles. Les victimes récentes des génocides de l'Afrique subsaharienne, des massacres en Algérie ou du conflit palestino-israélien n'ont jamais eu droit au même hommage. Les morts de New York ne susciteraient-ils pas plus d'émotion ? Parce que la vie d'un Américain ou d'un Européen est par nature plus précieuse que celle d'un Africain ou d'un Palestinien. N'est-ce pas encore un effet de l'inégalité fondamentale que nous établissons entre nous-mêmes et les autres ? Bien entendu, toute vie humaine est également précieuse et digne d'être respectée, mais il est de fait que les émotions ne sont pas directement proportionnelles au nombre des morts. On l'a souvent dit, une mort c'est un drame, 1 million de morts c'est une statistique, notre sensibilité s'émousse. Mais surtout, les morts suscitent des émotions différentes parce qu'elles ont des significations différentes. Ce n'est pas seulement le nombre des victimes qui donne son sens à l'événement du 11 septembre, encore qu'il ne soit pas à négliger, c'est le sens de l'action des terroristes. Tuer les soldats ennemis pendant une guerre traditionnelle, exercer des représailles lorsqu'on est en état de légitime défense, combattre un régime politique odieux, appliquer la peine de mort ou assassiner des enfants et des individus qui se rendent à leur travail quotidien, toutes ces manières de donner la mort n'ont pas le même sens. Contrairement à ce qu'avait affirmé Saint-Just, ce n'est pas la même chose de mourir de la peste ou de la révolution. Le terroriste qui donne la mort aveuglément viole les lois par lesquelles les hommes ont toujours tenté de contrôler l'exercice de la violence. Il faut comprendre pourquoi des hommes en arrivent à de telles extrémités. Il faut analyser l'humiliation de certains peuples non occidentaux, la passion mêlée de haine et d'amour, de mépris et d'attraction qu'ils nourrissent pour la modernité, donc pour les États-Unis. Mais on ne saurait passer de la compréhension intellectuelle à la justification morale ou politique. Les victimes ont des torts et des responsabilités. Les Français se chargent quotidiennement de le rappeler à leurs alliés. Et personne ne songe à faire des États-Unis l'incarnation du bien absolu. Même le président Bush, après 3 mois d'émotions partagées avec le peuple américain, ne le prétend plus sous cette forme simple. Mais enfin, on ne condamne pas seulement un assassin quand sa victime est innocente, qui d'ailleurs pourrait juger de cette innocence. Quelles que soient les qualités et les défauts de la victime, un assassinat est un assassinat, sinon aucune justice n'est possible. Nous ne devrions pas céder à ce mécanisme bien connu des psychosociologues, blâmer la victime, mécanisme par lequel les persécuteurs, les racistes ou les assassins ont toujours justifié leur conduite. Les terroristes, même s'ils meurent en même temps que leurs victimes, ne deviennent pas pour autant des héros ou des résistants. Les appeler ainsi, ce serait injurier les véritables héros, ceux qui, pour porter et défendre les valeurs qui font des sociétés humaines, ont combattu le nazisme en son temps, même par des moyens violents. Ils luttaient pour un idéal, contre un régime odieux, ce n'étaient pas des terroristes. Contre les terroristes, les démocrates peuvent lutter à bon droit.
Je vous ai dit déjà que je surveille beaucoup. Enfin, je n'ai même pas besoin de surveiller mon vocabulaire. Pourquoi ? Tout ce que j'écoute, je le traduis dans les termes suivants. Comme vous venez de dire, en Afghanistan comme ailleurs, il ne faut pas mobiliser la technologie militaire comme on l'a déjà fait pour la guerre du Golfe, pour résoudre des problèmes qui relèvent, je le répète, des problèmes de l'âme collective, des âmes collectives. Je voudrais bien qu'on commence à parler de l'âme, qu'on recommence à parler de l'âme. Parce que les peuples souffrent. Et la solution que vous demandez, Personnellement, je l'ai toujours conçu, vous allez peut-être dire que je suis un idéaliste et un rêveur, que les plus grands chefs politiques fassent une déclaration solennelle que désormais, les problèmes de la culture viendront au premier rang des préoccupations de tous les États et de tous les pays du monde. Nous avons mis de côté la question de la culture. Regardez ce qui se passe. On va négocier avec le Pakistan en lui donnant de l'argent pour négocier quelque chose qui est urgent à négocier. Évidemment, nous sommes en état de guerre. Mais a-t-on jamais négocié les problèmes de la culture, même au niveau européen? L'Union européenne a déclenché un mouvement qui laissait beaucoup d'espoir en 1995, à la réunion euro-arabe de Barcelone, où étaient réunis 27 pays, 27 États représentés à la réunion de Barcelone, pour traiter des problèmes de la Méditerranée, pour redonner place à la Méditerranée en tant que origine de toutes nos cultures, origine de toutes nos pensées. Il y a eu d'autres réunions similaires qui ont suivi à Malte, à Stuttgart, etc. Jamais la question de la culture n'a été présentée comme un objet de négociation avec les États, car je sais que les États veulent garder leur contrôle souverain sur les cultures et sur les systèmes éducatifs. Or, ça doit faire l'objet de négociations entre États. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon la religion musulmane continuera d'être enseignée dans les écoles officielles pour produire ce que j'appelle depuis longtemps une ignorance institutionnalisée.
Mohamed Harkoun,
comme elle l'est en France.
Depuis à peu près un mois.
Un degré moindre, mais je dis qu'elle l'est en France aussi à cet égard.
Depuis un mois, on a beaucoup analysé le langage, pas seulement le langage des médias, mais le langage des intervenants, des experts, des islamologues. Et il y a eu des voix pour dire de plus en plus souvent, arrêtez de parler d'islamistes à propos de Ben Laden, parlez de terroristes. Parce que ce qu'il fait n'a rien à voir avec l'islam.
Exactement.
D'accord, mais tout de même, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est tout de même de l'islam qui se réclame. Est-ce que ce ne serait pas abusif d'évacuer la dimension islamiste, fut-elle dévoyée, dénaturée?
Je ne l'évacue pas, je le redis. Je la mets au centre de mes préoccupations. Je consacre toute ma vie à mettre cette question, justement, à la faire descendre dans les débats de société. Et pour, justement, faire comprendre comment fonctionne une religion. Une religion, parce qu'il en est de même de l'hindouisme, hein, il en est de même du bouddhisme, il en est de même, il n'y a que le catholicisme occidental, européen occidental, qui est différent du catholicisme orthodoxe slave, intellectuellement différent et théologiquement différent. Il n'y a que le catholicisme de l'Europe occidentale qui a bénéficié, à son corps défendant d'ailleurs, parce qu'il n'en a pas voulu pendant longtemps, des acquis de la modernité des Lumières. Les autres religions n'ont pas bénéficié de cela. Et il faut les faire bénéficier. Voilà pourquoi je pose la question de la culture et aussi la question comment connaître. Comment connaître le fait religieux autrement que de porter sur le fait religieux des jugements à l'emporte-pièce en appelant Voltaire au secours contre la barbarie? C'est ce qu'on entend encore régulièrement.
Remarquez, il y a pire recours que Voltaire. Hervé Gardette.
Oui, cette méconnaissance que vous évoquez, vous pensez qu'elle est particulièrement importante chez les Américains et chez leur président George Bush, qui pourtant, cette nuit, a parlé de ses amis de l'islam, ses amis musulmans, son milliard et demi d'amis musulmans.
Ses amis musulmans, il aurait pu y penser depuis très longtemps. J'ai entendu un extrait d'une conférence de John Le Carré, qui a été reçu par Guillaume Durand. Peut-être vous l'avez écouté. Guillaume Durand, intelligemment, a introduit l'auteur par une conférence qu'il a faite à l'université Hopkins. C'est magnifique ce qu'il a dit. Ça devrait être republié dans tous les journaux d'Europe et d'Amérique.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, nous sommes en train de défendre une société occidentale sans avoir fait l'inventaire des valeurs qu'il faut véritablement défendre, car ces valeurs que nous défendons sont en péril, puisque nous sommes en train de piller le tiers-monde, nous sommes en train de préparer de futurs terroristes à partir de leurs enfants, de l'éducation qu'on donne à leurs enfants, nous sommes en train de truquer leurs élections, nous sommes en train de manipuler leur culture. C'est John le Carré, c'est pas Mohamed Harkoun.
Mohamed Harkoun, si...
Car il faut que je l'abrite.
Oui, vous avez raison, mais si aujourd'hui on ne cesse de dire l'attaque qui a eu lieu à New York, c'est aussi une attaque contre la modernité, pas uniquement contre les États-Unis, c'est aussi une attaque contre l'Occident, et dans le mot Occident, il faudrait savoir ce que les musulmans mettent derrière le mot Occident. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour les musulmans de faire une autocritique qu'ils n'ont pas toujours fait?
Mais l'autocritique, je vais publier un livre en anglais dans un mois, il est dommage qu'il ne soit pas déjà sur le marché, qui s'appelle « L'impensé dans la pensée islamique contemporaine ». La modernité est l'impensé majeur de la pensée islamique d'aujourd'hui. Et ça, je le dis en premier lieu aux musulmans, bien sûr. Que voulez-vous de plus?
Cette impensée, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu, enfin, que les musulmans aient peut-être failli à trouver une alternative.
Non, les musulmans, il faut traiter les choses en historien. Les musulmans, depuis le XIIIe siècle, ont cessé de développer une activité intellectuelle à l'intérieur de leur propre pensée. C'est donc quelque chose d'interne d'abord. Mais aussi, immédiatement, j'ajoute que c'est quelque chose qui est lié à l'ascension de l'Europe à partir de ce même XIIIe siècle. Il y a eu des conflits répétés entre le monde chrétien de ce temps-là, déjà au XIIIe siècle, et le monde musulman. Et ça a exercé une influence, mais moi je dis, il y a d'abord l'évolution interne de la pensée islamique à considérer, comme le fait que je vous ai cité tout à l'heure, dans l'histoire intellectuelle propre à l'islam. Autrement dit, j'ai toujours lutté contre le discours de victimisation coloniale, pour justement ramener l'attention à l'évolution interne de la pensée islamique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les musulmans ignorent les apports essentiels de la modernité? Lorsque je dis ça, heureusement, beaucoup comprennent, mais beaucoup aussi me disent « Tu es en train de nous apporter la cuisine des Occidentaux pour nous démolir notre islam. » C'est-à-dire qu'ils ne peuvent, ils sont inaccessibles, et je comprends pourquoi, pour des raisons psychologiques, pour des raisons diverses, et pour des raisons de conditionnement idéologique dans tous les pays, y compris par le système éducatif, je comprends pourquoi les musulmans sont inaccessibles à un raisonnement d'historien. Car quand vous leur parlez d'histoire, ils vous répondent « croyance ». Et là, le dialogue est difficile. Même ici en France, la population musulmane en est à ce point, en Europe en général. Voilà pourquoi il faut des lieux d'éducation et de communication, bon sang. Ça ne va pas descendre du ciel.
Mohamed Harkoun, est-ce qu'il y a eu, au cours du siècle échu, au cours du XXe siècle, une société, un pays, où l'islam était soit religion d'État, soit la religion de la majorité, et qui ait offert une alternative à l'islamisme?
Oui, malheureusement, ce travail pouvait commencer dans les années 50 et 60, puisque tous les pays musulmans, de l'Indonésie au Maroc, du Tadjikistan jusqu'à l'Afrique du Sud, tous sans exception, ont été colonisés, soit directement, soit indirectement. Il a fallu donc attendre 1945 pour que des souverainetés nationales prennent le pouvoir. Et dans les années 50-60, les musulmans avaient espéré qu'ils allaient enfin prendre en main leur façon de construire une modernité et de l'appliquer à cet islam précisément. Que s'est-il passé? Des partis politiques avec des partis uniques, inspirés du collectivisme soviétique dans un grand nombre de pays.
Ça, vous parlez pour l'Algérie par exemple?
Il n'y a pas que l'Algérie, mais en particulier l'Algérie, nous savons ce qui s'est passé. Et parallèlement à cela, pour faire passer la pilule, si je puis dire, collectiviste communiste, on a encouragé un islam fondamentaliste.
Et pour vous,
pas encore fondamentaliste au sens de l'action militaire et l'action armée, mais fondamentaliste dans la pensée.
Et pour vous, le modèle turc n'est pas un modèle ?
Le modèle turc n'est malheureusement pas un modèle parce qu'il a été brutal, d'une part. Il a été stupide dans un certain nombre de décisions en obligeant les Turcs à porter le chapeau, dans tous les sens du mot, français, n'est-ce pas ? Et parce qu'il n'y a pas dans la langue turque et l'histoire turque sous les Ottomans, il n'y a pas trace de culture laïque et de culture moderne. Ils ont, comme les autres musulmans, à la construire et à la conquérir. Et elle était loin de l'être au temps d'Atatürk. Donc vous introduisez quelque chose de l'extérieur, vous le jetez comme ça dans une société qui ne peut pas comprendre de quoi il retourne.
Thierry Garcia.
Oui, Pierre, une remarque peut-être sur l'actualité immédiate. Mohamed Harkoun, à l'instant, disait qu'on avait des difficultés en Occident, dans l'Occident, dans sa variété, à définir, délimiter, justifier, bien sûr, un certain nombre de valeurs. Il est frappant de voir comment, dans la presse en général, mais pas seulement la presse française, nous avons beaucoup de mal aussi à utiliser un certain nombre de mots simples. On disait tout à l'heure, par exemple, cet abus considérable du terme de riposte, qui n'est absolument pas pertinent sur le plan militaire à propos de représailles, qui ont leur justification, il n'en est pas la question. Mais il faut dire aussi que les Américains finissent, notamment par les agences de presse, par leur formidable caisse de résonance, par nous faire utiliser des mots que nous ne définissons pas, nous les répétons, nous les utilisons. Par exemple, le terme de mal, le terme de bien, le terme de coalition. Vous avez vu l'énorme difficulté qu'ont les Américains à monter cette coalition contre nature, traditionnellement au Moyen-Orient, puisqu'il y a deux types d'alliés, l'allié israélien lui-même, extrêmement rébellion, et les alliés arabes. Par exemple, le terme de coalition, vous avez aussi le terme de croisade, qui, Dieu merci, si j'ose dire, a été retiré par le président Bush lui-même. Les termes, par exemple, de terrorisme, le terme de guerre, on en a parlé d'ailleurs dans les enjeux internationaux, n'est pas forcément pertinent ni pour les attaques des terroristes du 11 septembre, ni pour ces représailles qui ont lieu. Donc on est en train d'utiliser des mots qu'on ne définit pas et qui nous sont imposés de l'étranger, qui demandent à mon avis un travail sémantique, de terminologique à faire dans les mois à venir de la part des spécialistes, à la façon dont dans la grande presse nous utilisons des termes qui ne conviennent pas forcément, ou qui ne conviennent pas du tout.
Mohamed Harkoun.
Alors, il y a pire. Le président Mitterrand, pendant la guerre du Golfe, a utilisé le concept théologique pris chez saint Augustin de guerre juste. Il a parlé de guerre juste dans un de ses discours, ou plusieurs, je ne me rappelle plus, mais je l'ai entendu. Et Bush avait fait la même chose.
Mais ça, c'est la culture américaine. Ça, c'est, il ne faut pas nous le reprocher aux Américains d'être...
Mais là, je cite Mitterrand.
De coder leur...
Et Mitterrand avait également utilisé une expression frappante, les soldats du droit. Car dans son discours à l'ONU, pendant la guerre du Golfe, il avait promis solennellement, Dieu sait si c'est attendu, un nouveau droit international.
Les guerriers de la démocratie avaient dit...
Pour justifier justement l'expression, effectivement, soldat du droit. C'est une belle expression, à condition de lui donner un contenu. Or, voici 10 ans que la guerre du Golfe a eu lieu, que s'est-il passé en matière de droit international ? Et nous vivons encore sur des frontières et un droit international construit au 19e siècle et tout de suite après la guerre de 45. Alors que les choses ont absolument changé. Nous avons besoin d'urgence, justement, pour changer le vocabulaire par la loi, par la culture juridique, d'un droit international qui soit reconstruit en intégrant des problèmes qui n'ont jamais été intégrés jusqu'à présent.
Merci Mohamed Harkoun d'avoir participé à Première Édition, une émission qui était réalisée par Georges Kiosef. Je vous rappelle que nous reparlerons plus profondément de la situation aujourd'hui en Afghanistan avec Jean Lebrun tout à l'heure à 18h30 dans Pot-au-feu, et puis dans Surpris par la nuit qui diffusera le reportage vers 22h30 de Sonia Kronlund sur l'Afghanistan. Et puis nous reparlerons très probablement de la situation demain matin à 7h30. À demain.